Carrefour.
Quand vous me dites, les JO de Paris 2024, ça va être énorme! Et pour une fois, toute la France sera derrière Paris! Eh bien, je vous réponds que pour célébrer les Jeux Olympiques de Paris 2024, il y a une collection exclusive chez Carrefour. Comme par exemple, le ballon de foot Paris 2024 à 9,99€ seulement. Alors? Ah ben ça, c'est énorme! Et c'est dans vos hypermarchés Carrefour.
Carrefour, partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Jusqu'à épuisement des stocks, produits officiels sous licence, détails sur carrefour.fr.
Vous écoutez
RMC.
RMC 6h-9h, la matinale week-end.
Marguerite Dumont, Mathieu Rouault.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ravi de vous retrouver. Vous êtes sur RMC. Nous sommes dimanche et nous sommes là en pleine forme le dimanche matin. Bonjour Marguerite.
Bonjour Mathieu. Moi j'ai dormi 2 heures, mais je suis en pleine forme.
C'est vrai.
Tout va bien.
Ah, mais et je crois que vous arrivez à me battre.
C'est vrai.
Deux
combien
heures seulement. Ah bah moi j'ai quand même réussi à faire 4 heures entre deux couches, deux trois tétés. Ouais, franchement ça va. Hein.
Deux trois tétés. C'est vous qui j'ai pas compris.
Ouais, alors vous voulez vraiment tout savoir, je suis en pleine lactation. Les bébés cherchent aussi le sein des papas.
On en apprend tous les jours. Il n'y a pas grand chose, je pense.
Ah, bon. Mais j'expérimente des choses corporelles. Vous pouvez pas imaginer.
On ne veut pas savoir.
On ne veut pas savoir.
On ne veut pas savoir. Peggy Broche, Stéphanie Rock, Stéphane Jeunesse.
Bonjour à tous. Salut.
Bien, passons aux choses sérieuses parce qu'il va y en avoir à partir d'aujourd'hui et pour 3 jours sur RMC. 3 jours pour le logement. Vous connaissez, ça fait des semaines qu'on vous en parle, notamment avec Marie-Cœur de Roy dans la matinale week-end. Il y a une crise, c'est même une bombe sociale, dit le ministre du Logement. Crise dans ce secteur, les taux d'intérêt explosent, les Français n'arrivent plus à se loger, de nombreux crédits sont refusés. Le CNR consacré au logement, le Conseil national de la refondation, doit rendre ses conclusions demain soir. Alors, quelle solution, quelles mesures pour sortir de cette crise? Nos reportages, nos invités jusqu'à mardi, mais surtout ce matin, vos témoignages. Vous n'arrivez pas à acheter, vous n'arrivez plus à payer votre loyer, vous avez la priorité au 32-16. Question toute simple, se loger est-il devenu un luxe? On vous attend jusqu'à 9h.
Et on se pose aussi cette question ce matin. Vivre nu, est-ce que ça serait pas la solution? C'est la journée mondiale du naturisme. 2 millions d'adeptes en France quand même. On est allé à leur rencontre à Caen, dans le Calvados, dans un camping naturiste, comprendre cette philosophie de vie, loin des clichés, des amalgames parfois malsains. Oui, vous êtes peut-être naturiste, vous êtes les bienvenus pour témoigner. Ce mode de vie vous interpelle. On en discute ensemble au 32-16.
Ce qui est pratique, c'est qu'il n'y a pas l'image. Hein. À la radio, il n'y a que le micro. Donc,
n'hésitez
pas. Et puis on n'oublie
pas. Et je ne décrirai pas.
Les mamans ce matin, les belles mamans, les bonnes mamans, les mémères, les grand-mères, les mamies, vous les appelez comme vous voulez. Bonne fête à toutes les mamans en ce dimanche 4 juin. Tiens, comment vous l'appelez vous votre maman? Il y a peut-être un surnom.
Maman.
Affectueux.
Mamou.
Mamou. Ouais.
Maman chat.
Maman
chat souvent.
Maman chat. Allez-y, vos messages sur l'appli RMC, l'onglet Direct Studio. Venez mettre à l'honneur vos mamans. N'hésitez pas.
Vous écoutez RMC, très bon réveil à tous.
Il est 6h. Elles sont toutes chaudes. Les dernières infos avec Stéphane Jeunesse, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Le gendarme du médicament s'intéresse à la dernière étude de Didier Raoult sur l'hydroxychloroquine et s'apprête à saisir la justice. Début de notre opération spéciale logement sur RMC. On est à vos côtés pour trouver des solutions sur cette crise. Et ils l'ont fait hier soir au forceps. Les Nantais se maintiennent en Ligue 1.
À 6h20, ne ratez pas le coup de main conso. Je vais vous trouver des lunettes de vue d'occasion, des montures de grandes marques. Le marché est en plein boom.
La matinale week-end.
D'abord, l'Agence nationale de sécurité du médicament, qui va donc saisir la justice pour les travaux de Didier Raoult.
Le gendarme du médicament qui passe à la vitesse supérieure concernant la dernière étude co-signée par l'ancien directeur de l'IHU de Marseille. Étude sur l'hydroxychloroquine qui enfreint bon nombre de règles d'après la NSM, Clara Gabillet.
Il y a quelques jours, des sociétés savantes de médecine parlaient de cette étude comme du plus grand essai thérapeutique sauvage connu. 30 000 malades du Covid-19 suivis entre mars 2020 et décembre 2021 qui ont reçu de l'hydroxychloroquine. Les auteurs en ont conclu une baisse de la mortalité chez ces patients, mais la réglementation n'a pas été respectée, rétorque l'Agence nationale de sécurité du médicament. Les essais cliniques auraient dû être soumis à sa validation, mais aussi à celle d'un comité de protection des personnes, ce qui n'a pas été le cas. Didier Raoult se défend et assure qu'il ne s'agissait pas d'un essai thérapeutique. L'Agence du médicament avait d'ailleurs rappelé en avril que l'hydroxychloroquine ne constituait pas un traitement contre le Covid-19. Le ministre de la Santé a lui aussi brandi la menace de sanctions à l'encontre du professeur marseillais.
Clara Gabillet, soirée très agitée à Lyon et dans le Rhône, raison de fortes pluies et d'un orage très impressionnant hier. 120 interventions de pompiers rien qu'à Lyon ces dernières heures. Il est tombé l'équivalent d'un mois et demi de pluie en seulement deux heures.
C'était le 5 juin 2013, et il y a pratiquement 10 ans, jour pour jour, la mort de Clément Méric à Paris.
Ce militant antifasciste s'effondrait au sol lors d'une rixe avec des skinheads avant de perdre la vie. Week-end d'hommage et de commémoration qui se déroule dans la capitale. Tout à l'heure, notamment, une manifestation y est organisée dans le nord de Paris. Et même si les organisateurs appellent à se rassembler pacifiquement pour cet hommage, Grégory Joron, secrétaire général du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière, craint d'éventuels débordements.
Je ne veux pas mettre en accusation les gens qui potentiellement manifestent pour des raisons qui peuvent être nobles ou en tout cas non violentes. Il n'y a pas de sujet. Malheureusement, ça sera une manifestation d'ultra-gauche, c'est factuel, et d'antifa. Donc forcément, on peut quand même aussi se dire qu'il y a un risque potentiel de débordement parce qu'il y a ces gens qui sont sûrement honnêtes dans leur démarche et puis il y en a d'autres qui viendront peut-être profiter d'une manifestation et d'un regroupement pour justement commettre des exactions. Et on le sait très bien puisque c'est quand même malheureusement pas nouveau.
Un homme blessé par balle à Marseille hier soir dans la cité de la Sauvagère, c'est dans le 10e arrondissement. 4 personnes ont été interpellées.
RMC 6h03, c'est donc une semaine spéciale qui commence. Opération Logement sur RMC.
À l'occasion de la présentation des conclusions du travail du Conseil national de la refondation dédiée au logement, 3 jours donc pour le logement sur votre radio. On va ensemble tout comprendre à cette crise. De plus en plus de Français n'arrivent pas à se loger, les taux d'intérêt explosent, de nombreux crédits sont refusés par les banques. Il y a de moins en moins de construction de logements neufs et les normes trop strictes aggravent la situation. Alors cette question, quelle solution peut-on trouver? Quelles mesures pour sortir de cette crise du logement? Eh bien, illustration ce matin à Toulouse avec vous, Jean-Wilfried Forquès, puisqu'il devient très difficile de vendre un bien.
Bienvenue chez Alain, une maison avec du terrain tout autour.
C'est une sorte de jardin, parc.
Avec une grande terrasse et une habitation sur 2 niveaux.
C'est une très grande maison familiale de 218 mètres carrés.
Au départ, Alain et son épouse en demandaient 750 000 euros.
Ça fait 4 mois qu'on a mis en vente la maison. Nous n'arrivons pas à la vendre. Nous avons même fait une baisse de prix de 50 000 euros.
Alain n'est pas le seul dans ce cas. Les spécialistes le constatent tous les jours. Il y a 2 raisons essentielles selon Nabil Zouri, directeur du développement chez Particulier à Particulier.
Alors le principal argument, c'est qu'aujourd'hui les taux d'intérêt ont considérablement augmenté puisqu'ils sont passés de 1,5% à près de 3,5% à 4% aujourd'hui. Et puis le deuxième argument aujourd'hui, c'est que les banques prêtent beaucoup moins facilement et particulièrement aux primo-accédants.
Selon ce connaisseur du marché toulousain, par rapport à l'an dernier, il faut en moyenne 5 jours de plus pour vendre un bien.
Un reportage à Toulouse signé Jean-Wilfried Forquès. Et puis un petit mot de l'actualité internationale, puisqu'en Inde, les opérations de recherche et de sauvetage des victimes de la catastrophe ferroviaire de vendredi soir ont pris fin à l'accident qui a fait près de 300 morts et 900 blessés.
Il est 6h05 sur RMC, les sports avec la dernière journée de Ligue 1, avec l'ambiance des grands soirs hier à Nantes.
Les Canaries qui se maintiennent en Ligue 1 à l'issue d'une rencontre à suspense. Victoire 1-0 face à Angers. Sur le fil, les Nantais et les supporters ont pu exulter de joie, Pierre-Yves Leroux.
Une nouvelle fois, la Beaujoire a pu exploser de joie au terme d'une saison à rebondissement. Des montagnes russes achevées par un envahissement de terrain et un soulagement pour le coach Pierre Aristouille.
Beaucoup de soulagement pour le peuple nantais, pour tous les gens qui ont le cœur jaune et vert. Beaucoup de soulagement pour toutes ces personnes. Je l'ai rappelé aux joueurs qui n'ont peut-être pas complètement conscience, toutes ces personnes qui vont se lever demain matin avec le sourire.
Les Nantais ont mis fin à une série de 14 matchs sans victoire au bon moment. Beaucoup de supporters n'imaginaient pas une telle issue. Le président Valdemar Quitta lui-même se demandait bien comment la Ligue 2 pouvait être évitée.
Puis on a connu aussi un tremblement de terre qui s'est installé et qu'on n'arrivait pas à s'en sortir. On était un peu, vous savez, dans la boue et puis vous essayez d'en sortir, vous n'arrivez pas à vous en sortir.
Puis la Beaujoire s'est tue avec le sentiment mitigé d'avoir vécu une belle soirée, d'être passé tout près de la correctionnelle. Le FC Nantes aura besoin de vite se remettre au travail pour montrer un tout autre visage la saison prochaine.
Nantes qui se maintient donc au détriment d'Auxerre qui est relégué en Ligue 2 après sa défaite face à Lens.
Bah ça y est, je vais y arriver à ouvrir ce micro. Non mais attendez. En haut de tableau, le Paris Saint-Germain sacré champion malgré une défaite hier face à Clermont 3-2.
La saison qui se termine par une mauvaise note pour le PSG. C'était d'ailleurs la dernière de Lionel Messi sous les couleurs parisiennes et la dernière de Christophe Galtier sur le banc.
Toute expérience est enrichissante. Plus on est haut, plus les coups sont forts. C'est comme ça. C'est une expérience très, très, très enrichissante. Est-ce que j'ai tout bien fait? Non. Mais il y a des choses qui ont été bien faites aussi, qui sont passées sous le silence. Mais ça fait partie de cette grande exposition qu'il y a quand vous êtes l'entraîneur du Paris Saint-Germain.
À Paris, qui malgré tout jouera à la Ligue des Champions la saison prochaine, tout comme Lens dans la lutte pour les places européennes. La belle affaire est pour Rennes, vainqueur à Brest et qui chippe la quatrième place qualificative pour la Ligue Europa à Lille. Le LOSC, justement cinquième, jouera la Ligue Europa Conférence la saison prochaine.
Et puis, les lève-tôt et les têtes en l'air qui nous écoutaient. Si vous avez oublié d'offrir un petit quelque chose à votre maman, il vous reste quelques heures, oui, juste quelques heures pour le
Et oui, c'est la fête des mères aujourd'hui, retardataire ou pas, qu'allez-vous offrir à votre maman pour lui témoigner votre affection, votre amour? Eh bien, Kevin Gasser vous a posé la question dans les rues de Paris.
Chaque année, la date de la fête des mères change et pour Nina, ce sera un cadeau de dernière minute.
Alors, j'avais un peu oublié.
Mais l'adolescente de 15 ans sait comment taper dans le mille.
Un joli bracelet avec des pierres ou juste une pierre. Parce que pour son anniversaire, je lui avais fait un bracelet. Elle a commencé à fondre en larmes, donc j'imagine que ça va lui plaire.
Youssef a 6 ans. Il a préparé à l'école cette semaine le cadeau pour sa maman.
Une fleur, elle est jaune et rouge. Et j'ai fait des graphismes autour du pot.
Antoine, élève de 6e, lui, ne l'avait plus en tête. Son papa ira acheter des fleurs pour marquer le coup.
En 6e, ils préparent plus de cadeaux à l'école et donc ils oublient totalement.
On reste sur le rouge ou on part complètement sur une autre fleur?
Catherine est la gérante d'un fleuriste à Paris. Elle attend du monde aujourd'hui.
Contrairement au 1er mai, c'est quand même sur toute la journée. Et on aura les retardataires lundi.
Avec, en top des ventes,
c'est bien sûr la pivoine.
Comptez 20 euros pour 5 fleurs. Un week-end de forte activité pour la fleuriste qui devrait réaliser en quelques jours plus d'un quart de son chiffre d'affaires de tout le mois de juin.
Maman, c'est toi la plus belle du monde.
Playlist spéciale maman ce matin dans la matinale week-end RMC.
Du coup, oui. On va se faire plaisir. Vous offrez quoi, vous, à votre maman?
Oh, un simple SMS suffira.
Ah là 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 là.
Voilà, allez pas une petite lettre.
Oui, ça fait toujours plaisir. Un petit message à la radio aussi, c'est original. N'hésitez pas.
Ah bah bonne fête maman, je t'aime.
Pareil.
Le 32-16 est ouvert, c'est bon. Les fleurs, c'est un grand classique. Peut-être aussi un bon gâteau, ça peut marcher, tiens. Bonjour Pierre-Yves.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
Bonjour Pierre-Yves.
À Doha, dans l'Ardèche, au Vieux Pétrin, chez Pierre-Yves. Vous avez concocté un petit gâteau spécial fête des mères?
Oh non, on a toutes les spécialités, nous, comme d'habitude. Hein. Mais bon... On tape pas mal dans la tarte aux fraises en ce moment-là.
Ah, ça, ça c'est pas mal.
C'est la saison, le fraisier pour la fête des mères, c'est presque un grand classique.
Le fraisier, ouais, c'est bien, ouais. Et bon, la tarte aux fraises aussi, pas mal. Là, sur, on a fait un sablé breton. Son sablé breton, c'est joli, quoi. En forme de cœur, vous avez dû l'avoir.
Eh ben oui, c'est ça, j'allais vous dire, sur notre compte Facebook Les Matins RMC, on voit la belle photo, le fraisier en forme de cœur. Qu'est-ce que vous avez écrit dessus?
Bonne fête maman, et puis maman je t'aime, on a fait des petits cœurs en chocolat.
Ah, c'est joli. Franchement, ouais, une belle création pour la fête des mamans. Vous attendez à pas mal de clients là ce matin?
Ah, il y en a un peu moins que les autres années, quoi. C'est un peu moins fort cette année, la fête des mères.
Ah ouais?
Et ouais, puis a priori c'est chez tout le monde pareil, quoi.
Mais ça démarre doucement et vous savez pourquoi peut-être Pierre-Yves, c'est que c'est au mois de juin. C'est vrai que d'habitude c'est un peu plus tôt au mois de mai. Là on avait presque oublié avec les ponts du mois de mai. C'est aujourd'hui les enfants, hein. N'hésitez pas. 4 juin. Pensez à vos mamans.
Le dernier week-end de mai et là c'est le 1er de juin. Donc.
Exactement. Il faut. On est là pour le rappeler, hein, bien sûr. Pierre nous écrit « Bonne fête à toutes les mamans ». Patrick pense à sa maman qui est disparue depuis 2-3 ans. Ses enfants aussi pensent à leur grand-mère. La vie continue, nous écrit Patrick. N'hésitez pas, mettez à l'honneur vos mamans, les petits surnoms que vous leur donnez. On va lire tout ça avec vous jusqu'à 9h ce matin. Bonne journée Pierre-Yves.
Au plaisir.
Bon dimanche.
Comme vous le dites.
Merci, au revoir à tous. Merci.
Allez, il est 6h11, on se réveille ensemble sous un grand soleil. Ciel dégagé pour Anthony Morel qui va nous faire monter dans un avion électrique ce matin. Oui, je vous assure. Et puis Margot Bourdin, Peggy Broche, Stéphane Genèse, vos chefs de cabine pour vous distribuer les meilleures histoires de la presse du jour. C'est dans 2 minutes, à tout de suite.
RMC 6h-9h, la matinale week-end.
Marguerite Dumont, Mathieu Rouault.
Vous êtes ici chez vous, ravi de vous réveiller, de vous accompagner en ce dimanche matin. Il est 6h12 très précisément. Toute la bande nous a rejoint pour
les histoires du week-end.
Peggy, Margot, Stéphane, bienvenue. Installez-vous tranquillement. On se réveille tout doucement, là, ce dimanche matin, mais Stéphane a décidé de nous embêter, et ouais, comme d'habitude, et de nous proposer une dictée. Qu'est-ce qui se passe ?
Eh oui, je vous emmène dans une salle de classe un peu particulière ce matin.
Oula.
Je sors.
La plus belle salle de classe au monde.
Ça va.
La salle de classe sur la plus belle avenue du monde, vous ne rêvez pas, puisqu'une dictée géante y est organisée ce midi et toute l'après-midi à Paris.
J'ai toujours retenu les choses compliquées, comme anticonstitutionnellement, la dictée de Mérimée, les rois d'Égypte.
Là, ça ne rigole pas. 1700 pupitres d'écoliers installés, un stylo, une feuille pour chacun. Voilà, rien de plus. Trois dictées qui se dérouleront tout au long de l'après-midi. Ça fait donc à peu près 5000 participants. Objectif, évidemment, on est en France, établir un record du monde de participants. Lecture assurée à tour de rôle par le journaliste littéraire Augustin Trapenard, l'écrivaine Catherine Pancol et l'adjoint en sport de la ville de Paris, Pierre Rabadan.
Et 1800 correcteurs, parce que j'imagine que vous...
Non, mais... Ce sera affiché sur écran géant.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Pour toutes les précisions. Un petit conseil, voilà, si vous participez à cette dictée de l'iconique Bernard Pivot dans les colonnes de West France ce matin, bien c'est simple, hein, le conseil c'est lire le dictionnaire. Okay. Mais surtout se lire et se relire. Alors petit essai pour vous, si vous êtes prêts, l'histoire que je vous ai racontée.
Et
Ah oui, bravo. Allez, 20 sur 20 pour Peggy Broche.
C'est quoi, c'est l'histoire du COD à
le COD qui est avant le verbe avoir et du coup, l'auxiliaire avoir et du coup le verbe derrière s'accorde avec le COD qui est placé avant.
Pour y faire la dictée. Ouais. Petite leçon de grammaire, comme ça, au débeauté.
Ouais, petite leçon de grammaire.
14, bim.
Moi, ça m'angoisse.
Avec maître Kepula, ouais.
Pas forcément des bons souvenirs.
Margot Bourdin, l'heure est grave. Oui, l'heure est grave. Il y a une pénurie mondiale. On peut lire ça dans la presse ce matin. Pénurie de peinture rose. Ce serait la faute de... De Barbie.
Une pénurie de peinture rose, conséquence inattendue du tournage du film sur Barbie. La réalisatrice Greta Gerwig a souhaité rendre hommage à l'iconique poupée en reproduisant tout le monde merveilleux et enfantin de Barbie. Et pour ça, elle a voulu retranscrire à l'écran un monde tout en rose. Car oui, à Barbieland, on voit la vie en rose. Dans le film, la maison de Barbie est donc en rose. Le sol, les murs, les lustres, le plafond, même les bâtiments et les routes sont roses. Alors, pour rendre tout ça plus vrai que nature, la réalisatrice a fait appel à deux chefs décoratrices qui ont confié, dans une interview à un magazine de déco, qu'elles avaient utilisé la même peinture rose pour peindre les décors plus vrai que nature, une teinte fluorescente de la marque Rosco. Mais les quantités utilisées sur le tournage sont telles que ça a créé une pénurie de la teinte, une pénurie mondiale. Le monde est à court de rose, c'est ce qu'elles ont déclaré avec humour dans cette interview. Alors, pas de pénurie de stars en revanche dans ce long métrage qui sortira le 19 juillet en France, avec Margot Robbie et Ryan Gosling qui interprètent Ken Barbie.
C'est lui,
Ken.
Il a l'air génial, j'ai regardé le teaser.
Parmi les seconds rôles, on retrouve Emma McKay et Will Ferrell, et ça donne ça en bande-annonce.
Salut Barbie. Salut Ken.
Je pensais rester chez toi cette nuit.
Pourquoi?
Parce qu'on est copains-copines.
Ah. Et on fera quoi?
Barbie qui voit la vie en rose.
En fait, je sais pas trop.
Alors, le pitch est simple. Barbieland. À Barbieland, vous êtes un être parfait dans un monde parfait. Sauf si vous êtes en crise existentielle, Barbie et Ken vont donc partir en quête dans notre monde réel et le choc sera brutal.
Ah bah oui.
Ouais. 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 Ouais.
En plus, il n'y avait plus de rose dans notre monde.
J'en connais qui vont avoir mal à leur féminisme.
Apparemment, le film est assez féministe.
Justement, oui. On a hâte de voir
Mathieu.
Mais je sais pas quand ça sort d'ailleurs.
Le 19 juillet.
Le 19 juillet, c'est noté, j'irai le voir. Bon, on a eu la dictée, la pénurie de rose. Maintenant, on va se détendre avec Peggy Broche. On va faire un peu de yoga, mais avec un verre de bière à la main. Ça, c'est Peggy.
Eh ouais, ça s'appelle le yoga bière, comme son nom l'indique.
And here we're doing beer yoga.
Ici, on fait du yoga bière. On boit de la bière et on fait des exercices de yoga. C'est aussi simple que ça.
Bah oui, bien, logique.
Comment on trouve l'équilibre à la fin ?
Et alors là, je vois très bien l'intérêt suscité par même ceux qui ne veulent pas faire de yoga ou qui disent non, je suis pas assez souple, non, c'est pour les vieux. Voilà. Déjà, ça se passe au Danemark, on n'est pas en France. On est bien d'accord que c'est pas ici que ça pourrait se passer. C'est Anne, pourquoi pas
dans le jardin de Stéphane Bennett.
C'est Anne Lund qu'on vient d'entendre, qui est instructrice, elle a 40 ans. Elle a eu l'idée de mettre en place cette séance, une séance gratuite un mercredi sur deux sur un quai du port de Copenhague, à l'arrivée des beaux jours. Ça cartonne, il y a toujours beaucoup de monde, et les bonnes idées arrivent souvent en fin de soirée quand on est un peu bourré. Voilà, merci Margot. Et c'est le cas de notre amie Anne, en fait, qui a eu l'idée il y a 4 ans avec son ami propriétaire d'une microbrasserie. C'est lui qui offre les canettes à chaque séance. Et donc à chacun d'utiliser sa canette à chaque posture réalisée et de boire en même temps.
Tenir en équilibre sur...
Alors, non, vous pouvez la tenir dans votre main droite, la faire passer dans la main gauche et la boire en une fois que vous êtes...
C'est la règle, pense.
Voilà. Ça complique un peu les postures de yoga.
Bah évidemment, et puis surtout, on n'a pas envie d'en perdre une seule goutte. Donc,
bah oui, c'est bien fait en bas.
Si j'ai tête en bas, je pense que c'est difficile de boire en même temps. Hein, voyez.
La salutation au soleil aussi, je pense.
Oui, voilà. Je vois que vous êtes amatrice de yoga.
J'ai jamais testé avec de la bière.
Mais en fait, même les gens les moins souples, d'un seul coup, deviennent très souples et arrivent à réaliser toutes les postures avec une
promesse
à
la main. C'est la magie de la bière.
On va tous s'y mettre, c'est génial. On y va, Stéphane. Et la bière au yoga, ça existe ? La bière au yoga.
Vous avez déjà commencé à boire ou quoi?
Pas du tout. Il est un peu tard.
Allez, merci beaucoup.
Avec modération.
Bien sûr. Ça va voler beaucoup plus haut. On vous le promet maintenant. Bah. Oui, ça va. C'est Anthony Morel qui arrive et ses nouvelles technologies.
C'est déjà demain.
Et bonjour Anthony.
Bonjour.
Faut-il limiter les vols en avion? C'est vrai que cette semaine, on a beaucoup parlé de cette proposition polémique faite par l'ingénieur Jean-Marc Jancovici qui propose donc de limiter à 4 le nombre de fois où on peut prendre l'avion au cours de sa vie entière.
Et l'autre option, ce serait d'avoir des avions moins polluants électrique, par exemple.
Bah oui, on a bien des voitures électriques, on le sait moins, mais il existe plusieurs centaines de projets d'avions électriques à travers le monde. Il y en a un, par exemple, qui s'appelle Alice, qui a réalisé récemment son premier vol. Ce sera probablement le premier modèle d'avion électrique commercial. Alors, c'est un petit avion, 9 passagers maximum, des lignes très épurées, propulsées grâce à des batteries lithium-ion, comme celles qu'on a dans les voitures électriques ou même dans les smartphones. On peut même le recharger à l'aéroport, comme une Tesla. Vraiment, c'est le même principe. Autonomie 500 km. Donc autant vous dire que ce sont des vols très courts. Alors il y a d'autres modèles qui montent jusqu'à 1500, mais on est quand même sur du vol court courrier. Il n'y aurait plus de débat d'ailleurs, est-ce qu'il faut prendre le train sur les trajets courts? On pourrait prendre l'avion. Les avantages, pas de bruit, des avions silencieux, plus d'émissions de CO2, plus de carburant, ce serait tout bénef pour les compagnies aériennes et ça permettrait peut-être aussi de faire baisser le prix des billets et puis ça permettrait de toucher cette fameuse corde sensible de l'écologie à l'heure où certains ont honte maintenant de prendre l'avion.
Ouais, bon, après 500 km, votre Alice, là, ça va pas remplacer le Paris-Shanghai, le Paris-Rio, le Paris-Lima et les gros A380.
On est clair, on est d'accord là-dessus. En tout cas, pas tant que les batteries ne seront pas beaucoup plus efficaces qu'aujourd'hui. Ça leur arrivera peut-être un jour, mais enfin, on en est très loin. Aujourd'hui, les batteries dans un avion électrique, ça prend 60% du poids de l'appareil. Donc en gros, un avion électrique aujourd'hui, c'est une batterie avec des ailes et accessoirement quelques passagers. C'est vraiment ça. Ça va sûrement s'améliorer. Et puis il y a d'autres options. Par exemple, les moteurs hybrides. On décolle en mode électrique, moins de bruit, moins de pollution. Et une fois en l'air, on repasse en kérosène. Ça permet quand même de moins polluer. Ça intéresse très sérieusement les compagnies aériennes qui envisagent des vols commerciaux en mode électrique à partir de 2030 pour des vols court courrier. EasyJet, par exemple, qui travaille avec une start-up qui s'appelle Wright Electric sur un avion 100% électrique pour les vols régionaux.
Anthony, comme à chaque fois, comme pour la voiture électrique, on brandit le mot propre, technologie propre, mais c'est un peu plus compliqué que ça, je crois.
Oui, parce que je disais pas d'émissions carbone, il faut voir sur la totalité du cycle de vie du produit.
La fabrication.
Il y a la fabrication des batteries, il y a le recyclage des batteries, des matières rares pour les construire. Quand même, sur l'ensemble du cycle de vie, ce serait beaucoup moins émetteur de CO2 que les modèles qui volent au kérosène. Il faut comprendre que de toute façon, l'électrique, c'est pas la panacée, c'est une solution parmi d'autres pour arriver à une aviation plus propre. Il y a aussi les avions à hydrogène, l'utilisation de biocarburants à base de colza, de maïs, d'algues ou même d'huile de friture. Même le solaire pourrait être envisagé en complément. Donc il y a beaucoup de choses. Il y a plein de solutions imparfaites. Il n'y a pas une solution parfaite.
C'est comme souvent d'ailleurs. Merci beaucoup Anthony Morel. C'est déjà demain. C'est avec vous le samedi, le dimanche et c'est à retrouver en podcast sur l'appli RMC. Soyez toutes et tous les bienvenus. Il est 6h21.
À suivre dans la matinale week-end.
Elles sont sur votre nez là. Mathieu, elles sont là. Très belles montures.
Jamais sans mes lunettes.
Vous coûtez beaucoup moins cher. Les lunettes de vue débarquent sur le marché de l'occasion. On en parle dans le coup de main conso.
Allez, on se retrouve dans une minute.
RMC, la matinale week-end.
6h23, bienvenue sur RMC. Tous ceux qui emportent le savent, c'est le premier réflexe. Quand, avant même d'ouvrir les yeux, d'ailleurs, vous tâtonnez, vous tâtez sur la table de nuit, vous cherchez. Ça y est, vous les avez trouvés. Allez, enfilez vos lunettes.
RMC, le coup de main conso.
Parlons de nos montures avec vous, Marguerite. Ce matin, face à l'inflation, le marché de l'occasion est en plein boom pour nos lunettes. On trouve de tout, même des lunettes de vue. Plus de 3 Français sur 4 emportent. Trouver des bonnes montures à petit prix peut s'avérer utile. Vous êtes parti à la la recherche, Marguerite, de ces bonnes affaires.
Eh oui, pour vous. Tout d'abord, le business s'est développé sur ce constat. Vous avez des lunettes sur le nez, comme vous, Mathieu, mais des paires dorment sûrement dans votre tiroir. 100 millions en France, selon une dernière étude d'Opinionway. Autant les utiliser, comme Ophélie Vambremerch, fondatrice des lunettes de Zac, dans son magasin lillois, des lunettes entièrement reconditionnées à petit prix.
Par exemple, Ray-Ban, on est entre 139 et 149 euros en prix moyen, et nous, elles sont vendues à 69 euros.
90% des montures viennent de grandes marques, des montures récupérées via des collectes dans des magasins ou des entreprises.
Il n'y a pas de monture Jenny, pas de monture Mordillet. Les seuls défauts qu'on accepte, entre guillemets, c'est, vous savez, à l'intérieur des lunettes, il y a des petits chiffres, des petites inscriptions, etc. Et c'est, à la limite, si elles sont effacées ou un petit peu moins visibles, c'est les seuls qu'on accepte.
Oui, bon, ça, à la limite, c'est pas très grave. Non, c'est pas très grave. Des lunettes pas mordillées, c'est la seule garantie que j'ai avec les lunettes d'occasion.
Je vous vois venir. L'occasion n'inspire pas vraiment confiance, surtout quand on parle de produits de santé. Déjà, sachez que c'est légal. Le principe de remise en bon état d'usage de certains dispositifs médicaux est inscrit dans la loi de financement de la sécurité sociale de 2020. Et puis, sur le terrain, rien n'est laissé au hasard. Je vous emmène à Tourcoing, dans l'usine d'Altéos où sont reconditionnées ces lunettes. J'ai rencontré Bertrand, il traite une centaine de lunettes par jour. Pierre, première étape, le remplacement des pièces, l'inspection de la monture pour voir si elle est correcte.
Quand je dis correct, c'est-à-dire si elle est bien droite, hein. Le bon serrage des vis, de branches, de monture. Il peut y avoir ce qu'on appelle des plaquettes, hein, qui viennent se reposer sur le dessus du nez. Donc on contrôle aussi la qualité de ces plaquettes-là, et là on peut éventuellement aussi les remplacer.
Ensuite, on passe au grand nettoyage.
Nettoyage dans un bain avec une petite machine à ultrasons, hein, pour enlever toute saleté du temps.
Parmi l'ensemble des lunettes collectées, 30 à 40% seulement retournent à la vente.
Et est-ce que je peux les retrouver partout en France, pas seulement autour de Tourcoing?
Bah, c'est encore limité, mais il y a des opticiens qui se sont spécialisés, comme les lunettes de Zac, qui ont maintenant des corners dans des grands magasins, des sites internet comme Cycli, qui proposent de vendre et d'acheter des lunettes d'occasion. Le site sera en ligne à la fin du mois. Et des grandes enseignes comme Optique 2000 se sont également lancées. Mon conseil, c'est de bien vérifier que ce sont des opticiens qui gèrent ces ventes de lunettes d'occasion, que votre paire pourra être équipée de verres sur mesure, remboursés par votre mutuelle et que les garanties proposées sont les mêmes que pour du neuf.
Merci beaucoup Marguerite, les lunettes d'occasion. Et oui, vous retrouvez tout ça sur rmc.fr, bien évidemment votre coup de main conso en ce dimanche 4 juin. 4 juin, attention. Bonne fête les mamans. N'oubliez pas et envoyez-nous vos petits messages si vous souhaitez mettre la vôtre à l'honneur. Allez, juste après le journal de 6h30, on va vous emmener dans des contrées qui vous sont peut-être un petit peu lointaines, mais qui sont devenues une habitude pour de plus en plus de Français.
De quoi parlez-vous, Mathieu ?
2 millions de Français, et même un peu plus, pratiquent désormais le naturisme. Ça s'intensifie, ça a même des retombées économiques insoupçonnées. On va donc voir tout ça tout à l'heure à 6h40. Allez, on est en forme, j'espère que vous l'êtes aussi. Bienvenue à vous sur RMC.
Il est 6h30. L'heure d'un tout nouveau journal avec vous, Stéphanie Roch, bonjour.
Bonjour à tous. Dans l'actualité, des taux d'intérêt qui explosent, le prix des matières premières qui flambe, les Français ont de plus en plus de mal à se loger. Lyon, les pieds dans l'eau, de gros orages ont éclaté dans la soirée, près de 2 mois de précipitations en seulement 2 heures. Et puis en foot, Nantes sauve in extremis sa place en Ligue 1 après sa victoire 1-0 face à Angers.
L'opération 3 jours pour le logement, ça débute aujourd'hui sur RMC et on a un constat, c'est que les Français ont du mal à se loger.
La part du logement représente aujourd'hui près d'un tiers des dépenses dans le ménage, trop, surtout que les Français peinent à accéder à la propriété. Les taux d'intérêt explosent. Le gouvernement est attendu sur ces questions. Elisabeth Borne doit justement faire des annonces. À quoi faut-il s'attendre, Cyprien Pézeril?
Une vingtaine de mesures différentes, c'est ce que la Première Ministre s'apprête à annoncer demain pour tenter de mettre un terme à la crise, avec pour objectif d'augmenter le nombre de logements disponibles. Une mission compliquée, des banques qui prêtent moins, le prix en hausse des matières premières qui fait grimper les coûts de construction. Résultat, ces derniers mois, ce sont 12% de permis de construire délivrés en moins. Ensuite, la rénovation thermique des logements existants devrait aussi être encouragée. Manière de remettre ces biens sur le marché de la vente ou de la location. Mais les acteurs du secteur s'inquiètent et craignent que l'État ne mette pas suffisamment la main à la poche. Ce matin, dans le journal du dimanche, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, dit vouloir freiner les dépenses, restreindre les réductions d'impôts pour les investisseurs, aussi appelé le dispositif Pinel, ou encore limiter l'accès aux prêts à taux zéro.
Trois jours pour le logement, c'est donc sur RMC avec nos invités, nos reportages, nos décryptages, mais surtout vos témoignages. Ce matin, ce loger est devenu un luxe. Vous n'arrivez pas à acheter, vous n'arrivez plus à payer votre loyer. Le 32-16 est ouvert. On en vient maintenant, Stéphanie, à ces pluies diluviennes qui se sont abattues à Lyon dans la soirée.
Une ligne de métro perturbée, des habitants les pieds dans l'eau. Dans le département du Rhône, la violence de ces orages a surpris tout le monde. Martin Cadoré.
Oui, il est tombé l'équivalent d'un mois et demi de pluie en deux heures hier soir à Lyon. Le mercure est descendu de 6 degrés en une heure. Des images impressionnantes circulent. On peut voir l'eau ruisseler dans une station de métro, des personnes debout sur le banc d'un abribus alors que le trottoir est inondé. Des bouches de canalisation débordées sur la chaussée. Tout cela a généré plus de 700 appels aux pompiers, 120 interventions au total, dont une partie pour des naufragés de la route au moteur noyé par la pluie. Un arrêt du métro de la ligne D a dû être fermé une partie de la soirée car la station était inondée. Et il n'y a pas que dans le Rhône, en Gironde aussi, on a essuyé des intempéries soudaines vers Bordeaux du côté de Grésillac. Des grêlons gros comme des billes qui ont endommagé 200 à 300 hectares de vignes. Il faut encore faire les comptes, mais certaines parcelles familiales risquent de perdre l'intégralité de leur récolte.
Et les précisions de Martin Cadoré. Dans l'actualité également, Didier Raoult accusé de scandale sanitaire. La NSM, le gendarme du médicament, va saisir la justice après la publication d'essais jugés sauvages menés par le très controversé professeur marseillais. Entre mars 2020 et fin 2021, il avait administré de l'hydroxychloroquine à plus de 30 000 patients atteints du Covid sans l'accord des autorités sanitaires. Raoult qui, depuis, a quitté la direction de l'IHU de Marseille. De nouvelles menaces envers un élu. Après le maire de Saint-Brévin, cela se passe cette fois-ci dans un village du Tarn-et-Garonne. Le maire Christian Urgal est la cible du youtubeur Papacito. Dans ses vidéos relayées par des dizaines de milliers d'internautes, l'homme proche de l'extrême droite accuse l'édile de corruption dans un conflit de voisinage. Christian Urgal a dû être placé sous protection policière. Et puis les opérations de recherche sont arrêtées un peu plus de 24 heures après le terrible accident ferroviaire qui a coûté la vie à au moins 288 personnes. Cela s'est passé dans l'est de l'Inde. Une tragédie qui a également fait plus de 900 blessés. La vétusté des installations ferroviaires est pointée du doigt alors que trois trains sont entrés en collision.
6h33, RMC, une marche blanche a eu lieu en soutien à la famille de Ryan.
Ce jeune homme de 25 ans, sauvagement agressé dans la nuit du 20 au 21 mai dernier au Lila, en Seine-Saint-Denis, alors qu'il venait rendre visite à des proches. Une enquête est ouverte pour meurtre en bande organisée. Hier, dans la commune, l'émotion était intense. Ameline Lafchin.
En tête de cortège, la famille de Ryan avance en silence, arborant des affiches en hommage au jeune dentiste. Deux semaines après le drame, c'est toujours l'incompréhension pour cette famille de cinq enfants. Son frère Idriss est l'aîné.
On comprend toujours pas ce qui s'est passé. C'est très dur même à concevoir. On sait pas comment l'aborder, on sait pas d'où ça vient. On connaît pas du tout ces phénomènes de violence, on en a jamais entendu parler.
Hier, l'émotion était particulièrement présente. Comme cette amie de la famille en témoigne, les proches de Ryan sont encore sous le choc.
Tout le monde essaye déjà de gérer au jour le jour. C'est compliqué, puis c'est l'incompréhension. Tant que les coupables ne seront pas trouvés, il y a tout qui se mélange. Il y a l'incompréhension, il y a la colère, il y a la douleur.
Le maire de la commune des Lilas, Lionel Benarous, était également présent. Il espère que la famille d'Orayan obtiendra justice.
J'espère que les auteurs de ce crime soient identifiés, interpellés, et qu'ils soient condamnés à la hauteur de la gravité des actes qu'ils ont commis, et puis que cette violence cesse pour que plus jamais, ni au Lila ni ailleurs, nous ayons à enterrer nos jeunes et à vivre dans l'affliction et dans la peine.
Un appel à témoins a été lancé pour retrouver les auteurs.
Allez, les sports sur RMC, le grand ouf de soulagement pour Nantes.
Et vous l'entendez, les supporters nantais fous de joie au coup de sifflet final. Victoire 1-0 sur Angers. Et les Canaries sauvent in extremis leur place parmi l'élite. Ils évolueront bien en Ligue 1 la saison prochaine pour le plus grand bonheur du milieu de terrain, Samuel Moutoussamy.
C'était magnifique. C'est la récompense de beaucoup d'abnégation. On a rien lâché, on s'est battu jusqu'au bout. Et c'est magnifique, on est fiers de nous. On est soulagés, on a fait le job et on est très émus. Parce que mentalement, voilà, c'est une aventure humaine. On oublie rapidement qu'on est des humains comme tout le monde. Et quand on est dans le dur, c'est difficile. Tout est extrapolé. On s'est battu, on y a cru jusqu'au bout. Et c'est magnifique de finir de cette manière.
Et Nantes qui rit, c'est Auxerre qui pleure. Une victoire suffisait pourtant aux Bourguignons pour assurer le maintien. Mais ils ont chuté à domicile face aux Dauphins, le Racing Club de Lens. Une défaite 3, lourde de conséquences. Les supporters étaient abattus après la rencontre.
Bah, la tristesse, hein, voilà, on y a cru jusqu'au bout. Là, ça fait mal pour la ville, ça fait mal pour tous les supporters. Et puis bah, on est reparti, à mon avis, pour quelques années pour espérer pouvoir remonter un jour en Ligue 1. Quoi.
Forcément déçu, on va retourner en Ligue 2, donc forcément déçu.
Un peu déçu, mais on se dit que la saison, elle s'est pas jouée maintenant, mais c'est joué avant. C'est pas méchant, mais je contre Rodez, des équipes comme ça, bah, c'est dommage.
C'est la déprime du côté d'Auxerre, très clairement. Dans le haut de tableau, en revanche, Stéphanie, aucun enjeu.
Non, Marseille déjà qualifiée pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions, était en déplacement à Ajaccio et des échauffourées ont éclaté entre supporters des deux clubs avant le match. Les CRS ont dû faire usage de grenades lacrymogènes, des scènes de chaos et même des cris de singes qui ont été proférés par des supporters corses à l'encontre des Marseillais. Une ambiance détestable. Un confrère de France 3 Corse a même été pris à partie après la rencontre. Sur le volet sportif, Ajaccio, déjà relégué en Ligue 2, s'est imposé 1-0.
Et puis à Paris, la fête aura été gâchée jusqu'au bout.
Entre l'inquiétude concernant Sergio Rico, vous savez, le gardien remplaçant qui est toujours entre la vie et la mort, et une saison décevante sur le plan sportif, le PSG s'est incliné au Parc des Princes face à Clermont 3-2. Une rencontre terne à l'image de cette année dans la capitale, Fabrice Hawkins.
Pour son dernier match au club, Lionel Messi a été sifflé.
Léo Messi.
Alors que Paris fêtait son 11e titre de champion de France, la soirée était pleine de paradoxes avec une nouvelle défaite à la clé. La 10e cette saison, toute compétition confondue, du jamais vu sous QSI, alors que Kylian Mbappé, lui, a marqué son 29e but. Meilleur buteur du championnat pour la 5e fois d'affilée, Paris aura besoin de lui pour la suite. Contrairement à Christophe Galtier, qui va se faire licencier et qui est rentré au vestiaire dès que le capitaine Marquinhos a soulevé le trophée. Le futur ex-entraîneur du PSG n'a pas vraiment célébré le titre avec ses joueurs et a été une nouvelle fois hué par les supporters.
Après la Ligue 1, place au top 14.
Avec la qualification pour les demi-finales du Racing Métro hier face au Stade Français, dans le derby francilien, victoire des Racingmen 33-20. Prochain adversaire, Toulouse, dans le dernier carré, ce sera vendredi prochain. Le deuxième match de barrage, c'est ce soir. Lyon accueille Bordeaux-Bègles pour le troisième ligne d'Ilon Crétin. Le Loup a gagné en maturité cette saison.
Cette année, on a connu des situations dans les matchs compliqués. On a su ne pas baisser la tête, ne pas baisser les bras, même si des fois on est revenu 100 points de certains matchs. Je trouve que l'équipe a du caractère et qu'elle donne tout jusqu'à la fin. Et c'est un atout sur lequel il faut s'appuyer pour des matchs aussi difficiles et accrochés comme dimanche.
Et le vainqueur retrouvera en demi-finale le champion d'Europe, La Rochelle. Coup d'envoi de la rencontre dès 21h05. Ce sera à vivre en direct sur RMC.
Merci beaucoup Stéphanie. On vous retrouve pour un tout nouveau journal. Ça sera à 7h30 évidemment sur RMC. Mais maintenant, c'est l'heure des courses.
La matinale week-end.
Les courses RMC.
Pour ceux qui aiment parier, le cheval sur lequel il faut miser, le dernier bruit de la Dream Team des courses RMC. Bonjour Frédéric Kita.
Bonjour Mathieu, bonjour Marguerite, bonjour à tous.
En ce dimanche, le quintet à Chantilly à 15h23, très précisément.
Pourquoi, on l'expliquera tout à l'heure. Mais en tout cas, le quintet plus, c'est un handicap qui est réservé donc à la génération des 4 ans et plus. Et sur la distance de 2400 mètres, ils seront 14 concurrents au départ.
Quel est votre dernier bruit ?
Notre favori dans cette épreuve, c'est le numéro 4, Bétard. C'est un concurrent qui débute dans la catégorie des handicaps, mais il a couru à un très bon niveau. Et en plus, il est entraîné par un entraîneur qui a une belle réussite, Francis-Henri Graffard. Et donc, on pense qu'il peut très bien faire d'entrée de jeu dans cette catégorie.
Numéro 4, votre deuxième choix ?
Dans cette épreuve, on aime bien aussi le numéro 13, Thunderspeed. Il vient de très bien terminer son parcours à la 5e place à ce niveau sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Logiquement, il devrait participer activement à l'arrivée et terminer dans le quintet.
Alors, voilà pour le quintet à 15h23.
Exact.
Donc, pourquoi 15h23 ? Parce que à 16h05, il y a l'événement du week-end.
Effectivement, à 16h05, c'est le prix du Jockey Club. C'est la plus belle course réservée aux poulains de 3 ans en France. Et ils ne sont pas assez nombreux pour que cette course puisse servir de support au quintet, puisqu'ils sont que 11 au départ. Mais en tout cas, c'est une très belle course et j'encourage ceux qui peuvent aller sur l'hippodrome de Chantilly pour assister à ce bel événement. À noter aussi que dans 15 jours, on aura le prestigieux prix de Diane aussi sur l'hippodrome de Chantilly.
Quel beau programme. Merci Frédéric Kita et tous vos pronostics, bien sûr, à retrouver sur rmc.fr. Il est 7h20, les amis, 6h40, on se réveille ensemble et on est ensemble jusqu'à 9h dans la matinale week-end. On était dans l'Ardèche tout à l'heure, partons dans la Drôme. Il y a du monde réveillé dans le sud ce matin. Bonjour Myriam.
Bonjour l'équipe, bonjour tout le monde.
Bonjour Myriam.
Félicitations Mathieu.
Ah merci, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas parlé. La dernière fois j'étais encore papa d'un seul enfant, maintenant c'est deux.
Bah voilà.
C'est plus compliqué.
Ouais. Bon courage.
Comme vous dites.
Je vais faire un petit coucou à toutes les mamans et leur dire bonne fête.
Vous avez bien raison.
La mienne qui est en Normandie. Voilà.
Vous avez des enfants, vous, Myriam ?
Oh oui, j'en ai deux, mais ils sont grands.
Mais ils vont penser à vous aujourd'hui.
Bah oui, je pense.
Bah ils ont intérêt, hein.
Sinon, on viendra leur tirer les oreilles en direct sur RMC.
En plus, mon grand nous a fait le cadeau du deuxième petit-fils. Donc,
ça, c'est bien. Toujours sympa.
Quel est le plus beau cadeau que vous ayez reçu pour une fête des mères, bon, au-delà de la naissance de vos petits-enfants ?
C'est un repas avec mes enfants. Moi, c'est mon plus beau cadeau, c'est d'être avec mes enfants à Noël, à la fête des mères.
Mais ça, je suis bien d'accord, Myriam. C'est le meilleur des cadeaux. À chaque fois, on se creuse la tête pour des trucs matériels, mais en fait, passer des bons moments en famille avec sa maman, c'est ce qu'il y a de mieux.
Entouré de mes enfants, c'est le mieux.
C'est tout simple, finalement. Et si on est loin, un coup de fil, bien sûr.
Que ce soit Noël, la fête des mères, les anniversaires. Moi, je leur demande pas grand chose, c'est d'être avec moi. Voilà.
Ah. Et ben, on espère que vous allez bien profiter.
Ça coûte pas cher, en plus. Parce que c'est moi qui fais le repas, donc
ah bah en plus, il va être insupportable.
Ben voilà.
Profitez bien, Myriam.
Merci beaucoup, Myriam. Passez un bon dimanche.
À tout le monde. On n'espère pas avoir la pluie parce que tous les jours on a la pluie, nous.
C'est bien fait, Myriam.
Le soleil va revenir.
C'est ce que je disais, c'est bien fait pour les sudistes. Ils sont toujours
c'est pas
à nous narguer.
Parce que on a des orages tous les soirs et on serre les dents pour que ça casse pas.
Oui, non, mais au-delà de ça, vous avez raison. On a vu d'ailleurs dans le journal qu'il y a eu des dégâts cette nuit à Lyon. Si vous constatez ces dégâts, n'hésitez pas, vous êtes nos yeux sur tous les territoires français. Le 32-16 et l'appli RMC. Merci, Myriam.
Voilà. Je fais un gros bisou à mon mari qui est reparti en déplacement.
Allez, gros bisous
à
tous.
Un petit coucou.
On pense à lui. Nous sommes ensemble encore une fois jusqu'à 9h et dans un instant, on va tous se mettre à poil, bah oui. C'est ni un ordre, ni une consigne, c'est tout simplement une réalité de plus en plus répandue dans notre pays. Le naturisme est pratiqué par plus de 2 millions de Français et c'est aujourd'hui la journée mondiale consacrée à cette pratique. Vous allez voir que toute une économie s'est créée autour d'elle.
RMC 6h-9h, la matinale week-end.
Marguerite Dumont, Mathieu Rouault.
On est ensemble jusqu'à 9h et on passe ce dimanche tous ensemble, évidemment, sur RMC en direct. Vive, passez ces vacances nues, ça vous dit ? Ça vous interpelle ? Vous choque ? Eh bien, c'est le choix de plus de 2 millions de Français.
La journée mondiale du naturisme, c'est aujourd'hui, ce dimanche 4 juin, l'occasion de s'intéresser à cette pratique, ou plutôt ce mode de vie, mais alors sans clichés et sans tabou, s'il vous plaît.
La France, première destination naturiste du monde. Déjà, ça on l'apprend. 500 espèces accueillent ses adeptes du vivre nu. C'est toute une économie autour de cette pratique.
Vous connaissez sûrement les campings naturistes. Il y en a un près de Caen, où Solène Gardret a rencontré pour RMC des vacanciers heureux et décomplexés.
Des caravanes, une table de ping-pong, une piscine, à première vue, rien ne distingue ce camping d'un autre. Seule différence...
Le plus possible, c'est détenu.
Explique Alain, l'un des gardiens du terrain, une règle qu'il n'y a pas vraiment besoin de faire respecter.
Dès qu'il fait chaud, dès qu'il y a le soleil, on n'a besoin de rien dire. Hein. Tout le monde est déshabillé en 5 minutes.
Car ici, comme près de 2,5 millions de Français, on ne trouve que des adeptes du naturisme, qui ont même une carte officielle de la Fédération française.
Et tout le monde veut... Vive naturisme, parce qu'on y est bien, on n'aime pas avoir de vêtements, pouvoir se promener libre.
Une communauté internationale. Dans le camping, il y a près de 75% d'étrangers, dont beaucoup de Hollandais, comme Hans et Anne-Mieke. Ils viennent en France tous les ans, après avoir commencé le naturisme par accident, il y a près de 40 ans.
We made a trip.
On faisait un voyage avec la voiture et la tente, on était fatigués et on cherchait un camping. Notre pneu était crevé et on est allé dans le camping le plus proche. Et le lendemain matin, tout le monde était nu. Donc on a commencé comme ça.
On a vraiment aimé, c'est une façon de vivre, tu te sens libre et il y a beaucoup d'entraide entre nous. Tu le vois aussi dans les autres campings, mais pas autant.
Une mentalité aussi où personne ne se juge, c'est ce qu'apprécie Marie-France, une des doyennes du camping.
Moi j'ai eu un cancer du sein, personne ne me regarde et d'autres c'est autre chose. Je sais pas comment expliquer, on ne se regarde pas.
Et de plus en plus de personnes sont adeptes, Viviane Thiard est la présidente de la Fédération Française de Naturisme.
Dans les centres de vacances, dans les associations, on voit des nouveaux naturistes qui viennent vraiment vers nous pour comprendre notre philosophie, notre art de vivre, et ils adhèrent vraiment totalement.
Enthousiaste, elle rappelle que le naturisme a aussi un vrai poids économique.
Parce qu'on fait vivre la France avec le tourisme, puisqu'on arrive quand même à plus de 2,5 millions de naturistes, mais aussi des étrangers qui viennent. Donc ça enrichit aussi notre pays et nos villes.
La présidente travaille donc pour demander des agréments ministériels, éducation populaire et tourisme pour que le naturisme soit mieux reconnu.
Solène Gardret, merci beaucoup. Le reportage de la rédaction d'RMC à retrouver sans photo, sans vidéo, sur rmc.fr. www.rmc.fr.
Pour aller plus loin aussi, ne ratez pas notre rendez-vous à 8h10 avec Margot Casson, passionnante. Elle est l'auteure de Vivre nu. Elle a grandi en partie, elle a passé ses vacances dans un village naturiste et elle donne son point de vue sur cette pratique. Pour elle, c'est tout un mode de vie. Vous allez comprendre un peu mieux ce qu'est le naturisme. Ça sera à 8h10. Et vous continuez à réagir au 32-16. On veut discuter avec vous, en débattre, connaître votre avis, le naturisme, est-ce que ça vous parle ou pas du tout? On est en direct avec Pierre, bonjour.
Bonjour, comment ça va toute l'équipe?
Mais ça va Pierre, bonjour.
Ça va?
Bah oui, ça va très bien. Là, on passe un bon dimanche en direct sur RMC. Pierre, vous avez écouté à l'instant le reportage de la rédaction. Vous avez déjà pratiqué le naturisme ou pas? Ou ça vous tente pas?
Non,
je vous pose
non,
la question très directement. Hein.
Ah oui, bah je vais être direct. Mais le problème, c'est que j'ai peur de complexer les autres si j'y vais.
Ah,
ça m'embête.
Meilleure réponse.
Et heureusement qu'il est que 7h moins le quart, Pierre. Hein.
Non, je suis assez pudique là-dessus. Je pourrais pas. Chacun fait ce qu'il veut. Hein. Moi, je trouve ça sympa. C'est pour ceux qui aiment, c'est bien. Mais moi, personnellement, je pourrais pas.
Oui, ça vous choque pas, mais vous ne le faites pas.
Pas du tout. Non, il en faut pour tout le monde.
Mais ce qui est assez fascinant, c'est ce que je découvrais dans ce reportage, c'est qu'à l'inverse de ce qu'on croit, visiblement, quand on est nu, on ne regarde plus.
Bah,
vous voyez ce que je veux dire?
S'ils sont tous ensemble, alors il n'y a aucune raison. Mais moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai peur de les complexer, alors ça m'embête un peu.
Mais justement, visiblement, en fait, on arrête de complexer à partir du moment où on le fait. Mais bon, je comprends qu'il faut quand même sauter le pas, quoi, passer le cap.
Je pense que, je pense que la première fois, ça doit faire tout drôle. À mon avis, on regarde un peu, mais après, on s'habitue.
Puis mais là, oui, une fois l'appréhension passée, et puis comme le disait Mathieu, en fait, quand on est tous égaux, tous tout nus, bah finalement, ça passe.
Bah oui, c'est chose normale, quoi.
Tiens, Malika est aussi avec nous. Fontenay-sous-Bois, dans le Val-de-Marne. Bonjour, Malika.
Bonjour.
Bonjour, Malika.
Vous allez bien? Comment ça... bien?
Bah oui, on vous entend très bien. Comment ça va ce matin, Malika?
Ça va, la baraque, elle va bien, mais elle travaille pas aujourd'hui.
Vous travaillez pas. Vous allez pouvoir vous reposer tranquille. Là, vous commencez la matinée avec nous.
Le repassage, là. Il n'y a pas de repos.
Le repassage?
Ah oui, le repassage.
Ah, j'avais pas entendu le repassage, d'accord. Ah oui, bon, corvée repassage, ça arrive hein, le dimanche, faut faire son petit ménage de printemps. Malika, vous avez un avis sur les naturistes? Peut-être que vous pratiquez, pas du tout.
Bah, écoutez, la première fois que je suis partie en vacances, j'ai vécu à l'étranger pendant 8 ans, mes premières vacances, c'était au Cap d'Agde. Et les gens rigolaient, je comprenais pas pourquoi ils rigolaient.
Vous connaissiez pas?
Et non, je ne connaissais pas.
Au lieu du naturisme, le Cap d'Agde.
Voilà, et on m'a dit, voilà, il y a des clubs de naturisme et tout. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut, hein. S'ils sont à l'aise, pourquoi pas. Hein.
Mais vous étiez textile, Malika, comme on dit. Vous portiez des vêtements, quand même.
Il a le vocabulaire, monsieur.
Ah, oui. Moi, j'étais sur la plage de Richelieu, une belle plage. Et un peu plus loin, justement, c'est là que se trouvait le club de naturisme.
Et il ne faut pas se tromper de trottoir, hein.
Comment?
Au Cap d'Agde, il ne faut pas se tromper de trottoir.
Ah non, mais moi ça me surprenait pas en fait. Hein. Je suis assez ouverte d'esprit, je m'adapte à tout, voilà, y a pas de souci. Hein.
Et ben, on a des auditeurs tolérants.
C'est aussi pour ça qu'on en parle, bien sûr, ce matin sur RMC.
Chacun fait ce qu'il veut dans le respect des autres.
Voilà. Si vous pratiquez, n'hésitez pas. Hein. 32-16, faites comme Malika, faites comme Pierre ce matin. Bon dimanche à tous les deux.
Merci,
bonne fête
à tous.
Salut.
Bonne fête des mères.
Et joyeuse fête, les mamans. Vous avez raison. Il est 7h10.
À suivre dans la matinale week-end.
Les trois jours du logement sur RMC. Comprendre les enjeux de la crise qui traverse ce secteur. Ça commence maintenant dans la matinale week-end.
Et bien sûr, avec votre coup de main IMO de Marie-Cœur de Roy dans une minute. À tout de suite.
RMC, la matinale week-end.
Il est 6h52, soyez les bienvenus. Le réveil sur RMC, ça se passe comme ça.
Le coup de main immobilier.
Avec Marie Cœur de Roy, votre rendez-vous immobilier. Bonjour Marie.
Bonjour Mathieu, bonjour Marguerite.
Bonjour.
À partir de ce matin, les trois jours du logement sur RMC et on inaugure cette saison spéciale, trois jours logement avec vous Marie. On va parler de l'une des conséquences de l'inflation, l'un des symptômes de la crise du logement actuel, ce sont les impayés.
les impayés de charges quand on est propriétaire et impayés de loyer quand on est locataire.
Et on va commencer par les locataires. L'agence en ligne Immo Direct a mis à jour ses dernières datas. On va pas se mentir, c'est assez effrayant. Alors, il y a d'abord les petits impayés, ceux qui nécessitent une relance à J+1. Ces petits impayés, ils concernent désormais près de 20% des baux en Île-de-France contre seulement 5 en 2020. Au global, dans les 10 plus grandes villes de France, on monte même à plus de 23% de petits impayés contre seulement 7 il y a 3 ans. Alors, heureusement, les impayés supérieurs à un mois de loyer sont quand même beaucoup moins nombreux. Il n'empêche, là aussi, leur part a explosé. À l'échelle nationale, ces impayés de plus de 30 jours, ils sont passés de moins d'1% des baux en 2020 à plus de 3% aujourd'hui. Et ça, c'est un record historique.
Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les solutions pour les locataires, mais aussi pour les propriétaires bailleurs?
Et là, il n'y a pas de formule magique. La meilleure solution, ça reste pour le propriétaire bailleur de se couvrir via une garantie, une assurance contre les loyers impayés. Alors, évidemment, ça a un coût. En fonction de l'assurance, on va de 2,5% à 5% du loyer annuel, mais c'est quand même la meilleure protection dans ce contexte inflationniste, y compris même pour le locataire. Parce qu'on le rappelle, lorsque le propriétaire a souscrit une assurance contre les impayés de loyer, il n'a pas à demander un garant à son locataire.
Ah.
On ne peut pas cumuler les deux. C'est un gros avantage aussi donc pour les candidats à la location qui n'ont pas de proches pour s'engager avec eux
Très
sur le bail. C'est hyper intéressant. Notez qu'il existe aussi une assurance loyer impayé spécifique et gratuite. C'est la garantie Visal, qui concerne les locataires de 18 à 30 ans. Ils sont tous éligibles, quelle que soit leur situation professionnelle. Pour les plus de 30 ans, il y a des dérogations possibles, notamment dans le cadre d'une mobilité professionnelle.
Et ces impayés, Marie, ils ne concernent malheureusement pas uniquement les locataires. Ça peut arriver à tout le monde.
Et oui, les propriétaires aussi subissent l'inflation. Alors heureusement, pour l'instant, il n'y a pas de problème de remboursement de mensualité de crédit immobilier. En revanche, ça commence à coincer du côté du paiement des charges dans les copros. Le géant Foncia nous a filé ses toutes dernières données. Alors attention, il relève un taux d'impayé qui se maintient depuis 2 ans autour de 15%. C'est un niveau très élevé et c'est plus de 20% supérieur à ce qu'il était il y a 3 ans, ce taux d'impayé des charges. Le pôle contentieux de Foncia nous dit que pour l'instant, ça va, c'est pas dramatique. Mais il y a clairement une alerte, notamment du côté de la flambée des charges. Dans les immeubles au chauffage collectif, ces charges, elles ont augmenté de 20% cette année, après une hausse de 10% déjà l'an dernier. Et c'est sans compter la hausse des frais d'assurance spécifiques qu'on a dans les copros, en plus de votre assurance habitation. Ça a fait plus 7 cette année, après plus 5 l'an dernier.
Bon, et là aussi, il y a des solutions ou pas pour les propriétaires qui arrivent plus à payer leurs charges et leurs assurances?
Alors, il y a des choses à tenter, Mathieu. La première, c'est contacter le service contentieux de votre syndic, pour expliquer la situation clairement. L'idée, c'est de trouver un accord pour étaler votre dette. Alors attention, à ce moment-là, il faudra impérativement respecter les échéances. Et puis n'oubliez pas non plus que vous pouvez jouer sur ce calendrier, justement. Traditionnellement, vous le savez, les charges, elles sont à payer de manière trimestrielle. En fait, vous pouvez demander, pour essayer de faciliter la gestion de trésorerie,
la mensualisation. Comme ça, c'est comme forfait téléphone, on n'y pense plus.
Comme quand votre électricien vous interpelle, effectivement, mensualiser vos charges, ça peut vous aider.
Merci beaucoup Marie Cœur de Roi. Le coup de main IMO, c'est à retrouver en podcast sur l'appli RMC. Et tout à l'heure, on va plus loin à 8h40 avec vos deux invités, Mathieu.
Michaël Nodal, co-animateur du fameux CNR, le Conseil National de la Refondation consacré au logement. Les conclusions sont rendues demain. Et puis Yannick Borde, président de Provicis, c'est un des acteurs leaders sur le chantier et le secteur du logement en France. Comprendre cette crise qui traverse tous les secteurs du logement, de l'habitat, c'est donc pendant 3 jours sur RMC, 6h56.
Le bonus RMC.
On va écouter un peu de musique avec vous, Peggy Broche, puisque Vita dévoile son premier single.
Mais que pensais-toi ? Peux-tu me dire ce que fait ton mec et à quel endroit ?
Alors, vous avez bien compris que ce n'est pas le nouveau, celui-ci.
Oui,
hein.
C'est
l'ancien.
Ça
date en effet de 2006 avec
Diams.
Bravo, ouais, Diams. C'est comme ça qu'elle s'est fait connaître du grand public, Vita. Elle a fait plein de collaborations avec, entre autres, Soprano, Maître Gims, Claudio Capeo, Amel Bent ou encore Slimane. Ça vient, chanson originale de l'année aux 35e victoires de la musique 2020. Et Vita revient avec un nouvel album en solo cette fois. Il sortira le 6 octobre prochain. Il va s'appeler Charlotte. Charlotte, c'est son vrai prénom. C'est une façon en fait de se dévoiler un peu plus auprès de son public. Et la semaine dernière, la chanteuse a dévoilé le clip de Charlotte, premier extrait de son 8e album, dans lequel elle met en scène son enterrement, ou plutôt l'enterrement de Vita.
Mais c'est joyeux.
Ouais, sous le regard de son mari, de leurs enfants, mais aussi de Slimane, d'Amel Bent. N'hésitez pas à aller voir le clip. Et en fait, c'est la renaissance de Charlotte avec ses failles et ses forces.
Mmh.
Charlotte, c'est le titre de l'album. Et vendredi, elle vient de sortir le premier single officiel de cet album qui s'appelle Les choses qu'on fait.
C'est la vie qui veut ça.
Elle est vraiment là où on ne l'attend pas. Elle dit elle-même, elle prend un risque, mais elle y va. Ces deux extraits donnent un petit aperçu en fait de la couleur de l'album à venir. On y retrouve également des titres plus R&B, qui c'est plutôt son ADN. Un vrai challenge pour la chanteuse qui, en janvier dernier, avait sous-entendu sur son compte Instagram que ce serait peut-être son dernier album.
Ah, bah écoutez, moi en tout cas, je dis pourquoi pas, même si c'est pas trop son genre.
Ah, ouais, c'est un bon challenge. Pas le dernier album.
Non, mais pourquoi pas un autre genre musical. Bien sûr, je constate que ça danse ici. Exactement. En studio, ça danse en régie, ça danse peut-être chez vous.
Ça sortira le 6 octobre prochain. Il y a une tournée également. Elle va même sortir un documentaire sur sa vie et son parcours.
Rendez-vous est pris. N'hésitez pas à danser chez vous. N'hésitez pas à chanter aussi. Ça a beaucoup chanté hier dans les rues de Nantes. Le maintien en Ligue 1 des Canaries, c'est à la une du journal de 7h qui arrive, à tout de suite.
On se déchire encore, je sais même plus pourquoi. Dis-moi, c'est fou ce qu'on fait.
C'est la matinale week-end.